Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. C'est un grand plaisir et un grand honneur aussi d'accueillir aujourd'hui Gaëtan Pichot. Gaëtan Pichot, un artiste remarquable et remarqué, reconnu aussi dans toutes les grandes manifestations qui ont lieu en France et souvent ailleurs. Il va nous en parler avec beaucoup de détails et beaucoup de précisions. Gaëtan, qui êtes-vous ?
Moi, je suis Gaëtan Pichot, je suis Nantais d'origine et je suis sculpteur autodidacte. Je sculpte beaucoup de bois, un peu de pierre aussi, de l'os, des graines, de la matière naturelle, un peu de nacre aussi par le travail que j'ai découvert en Polynésie. Voilà.
La sculpture pour vous, c'est inné ou bien c'est une passion qui est née un peu plus tard ?
C'est pas du tout inné. C'est venu progressivement en regardant et aussi en attendant les vagues, surtout en Polynésie. C'est ce qui a déclenché carrément mon travail de sculpture, la Polynésie française. J'avais beaucoup de temps à attendre et puis au fil des années que j'avais déjà passé en Polynésie grâce à mon service militaire, j'avais pu découvrir une culture, des motifs aussi, toute une énergie. Et puis au fur et à mesure de l'attente, on attendait les vagues, j'ai vu une personne avec un caillou sur un caillou commencer à sculpter, ce qui m'a donné vraiment un énorme élan.
C'est donc le service militaire qui en partie a permis ça ?
Exactement, c'est ce que mon service militaire que j'ai fait en Polynésie française. Bon, faut dire que j'ai signé mon service outre-mer, un VSL, pour 92-94, et mon but c'était aussi découvrir la culture polynésienne, puis partir loin de la France, surtout partir loin. Et pendant cette période-là, moi je voulais aller surfer à Tahiti. Ce qu'il y a, c'est que j'ai passé mon temps, mon service militaire, j'étais pompier sur avion, et c'était soit Mururoa à eau ou à eau, donc dans les Tuamotu, et il n'y avait pas de vagues. Donc j'ai pas pu vraiment surfer, mais je me suis nourri d'autres choses qui a fait naître ma sculpture, mon départ de sculpture 6 ans après.
Voilà. Surfeur alors hein.
Bodyboarder vraiment, surfeur oui un petit peu, mais surtout bodyboarder, donc ce qui permet aussi plus de facilité, on va dire entre guillemets, dans les vagues. Mais quand on est en Polynésie française, on fait vraiment beaucoup de corail et aussi dans le tube, donc que ça soit surfeur ou bodyboarder, c'est le même danger. Donc et en même temps aussi la même envie, la même passion, la même attente, la même découverte aussi, parce que surfer en Polynésie, c'est quand même découvrir aussi tout le monde marin avec les raies, les tortues, les marsouins, les dauphins, et puis plein d'autres choses, naturellement.
Vous êtes en train de nous faire rêver et de nous emporter avec vous vers ce domaine-là, ce domaine qui s'est ensuite concrétisé justement par la sculpture. Et les premières sculptures que vous aviez réalisées, alors ?
Alors, les premières sculptures que j'ai réalisées, c'est surtout que avant que je parte vraiment dans le chemin de la création et de la découverte de la sculpture, pendant mon service militaire, je voulais absolument aller à l'île de Pâques. Et avant d'aller à l'île de Pâques, je suis parti à Nuku'iwa. Un sergent-chef avait ramené des super tikis de là-bas et je me suis dit, bon, faut absolument que je fasse au moins un petit séjour là-bas. J'ai fait un séjour là-bas à Nuku'iwa, aux Marquises, à Taiohae, le village. Une petite promenade aussi dans toute l'île, mais c'est surtout ce village-là qui m'a marqué. Et j'ai rencontré une famille de sculpteurs, et surtout Edgar Tamari, à qui j'ai acheté un tiki en 93, février 93. Et 6 ans après, je suis retourné à Nuku'iwa, rencontrer Edgar, lui faire voir ce que j'avais commencé au couteau à Tahiti, parce que j'ai quitté en 94 la Polynésie, et je suis retourné aussi en 98-99. C'est là où j'ai commencé à vraiment travailler au couteau, et j'avais les cheveux longs, donc j'ai commencé par les piques à cheveux. Et c'est au moment où je suis allé à Nuku'iwa rencontrer Edgar Tamari pour la deuxième fois, où il m'a dit « installe-toi à côté », il m'a donné des petits bouts de bois, et puis j'ai commencé à gratter sur les bouts de bois en observant quand même sa famille, parce qu'ils avaient trois ou quatre bungalows à ornementer chacun. Ils étaient trois frères. Et donc là, ça m'a permis d'être dans une effervescence de créativité, et surtout aux Marquises. Donc ça m'a nourri énormément, et j'ai commencé vraiment mes miniatures. Vraiment des pendentifs en bois de là-bas, hein, en Miro, en Toho, en Mickey aussi. Donc des petites essences de là-bas. Et puis progressivement, j'avais plus d'argent. Donc j'ai quitté les Marquises, j'ai quitté la Polynésie française, Tahiti, je suis rentré en France. Et en France, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui avait un petit sous-sol. Elle m'a proposé de travailler chez elle, entre guillemets, je me suis installé. Et puis j'ai acheté des outils là. J'ai acheté aussi du bois, j'ai aussi découvert le monde du bois, parce que je suis devenu quand même sculpteur maintenant, ça fait 24 ans. Mais sans la matière, on n'est rien. Sans les rencontres, on n'est rien. Sans les gens qui nous donnent la possibilité de créer, on n'est rien. Donc tout ça, ça s'est, on va dire, déroulé progressivement. Et ça fait naître vraiment ma créativité et ma découverte.
Oui, j'ai cru lire, j'ai lu, que le bois que vous utilisez, c'est un bois particulier aussi, un bois assez typique.
Alors, pour les pièces qui sont en Polynésie française que j'ai réalisées, oui, c'est vraiment un bois endémique. Donc, on a le Tespedia populnea, donc ça, c'est pour la Polynésie française. On a le Subcordata aussi. Donc, au niveau Tespedia populnea, au niveau verniculaire, on appelle ça bois de rose d'Océanie. Ce n'est pas un bois de rose, c'est vraiment ce n'est pas un palissandre, c'est vraiment un bois qui est endémique au Pacifique, parce que tout le monde se gargarise de dire que c'est un bois de rose. Pourquoi ? Parce que le bois de rose fait partie de la famille des palissandres, et les palissandres, naturellement, on sait bien, comme les ébénacées, palissandres, c'est les bois les plus précieux de la planète. Donc, pour la Polynésie française, c'est vraiment appellation bois de rose d'Océanie. Nous en avons un autre aussi, le Subcordata, qui est le Toho, qui est une appellation aussi noyer d'Océanie. Pourquoi noyer d'Océanie ? Parce que nous, Européens, quand nous sommes arrivés en Polynésie française, on a donné des noms aux bois en fonction aussi de nos connaissances à nous. Donc, bois de rose, parce qu'il avait une couleur rose, et voilà, et noyer d'Océanie, parce que le Toho, c'est un bois qui a un grain, mais identique au noyer, au nigra. Parce que en France, il y a trois noyers à peu près. Oui, il y en a trois. De juglandacées, c'est le noyer d'Amérique, qui est une essence qui est venue d'Amérique et qui est assez violette. On a aussi l'essence du noyer noir, donc le nigra, qui est vraiment très très noir au niveau du cœur et très peu d'aubier. Et on a le regia, qui est le noyer commun, qui est avec un cœur très très peu de noir et beaucoup d'aubier blanc. Donc le noyer, c'est vraiment un bois d'excellence pour la France. Et en Polynésie, le Toho, c'est vraiment le cousin du noyer et il se travaille pareil. Donc il y avait ces essences-là. Et progressivement, en France, il n'y avait pas les bois polynésiens comme j'avais pu connaître. Donc j'ai commencé et j'ai eu la chance d'une maman. Une maman d'un très très bon ami qui m'a donné son arbre et qui m'a donné son if. Son if venait de prendre la foudre et il était à moitié coupé en deux. Il fallait le couper. Donc j'ai acquis un if. Bon, il a fallu aller chercher. Moi, je suis nantais. C'était en Charente-Maritime et j'ai découvert aussi toutes ces passions de charger, décharger, d'aller récupérer ou des fois aller acheter, et ainsi de suite. Donc pour la France, j'ai commencé avec l'if, qui est un bois très précieux, qui est peu commun, parce qu'on le trouve, nous, en France, souvent dans les parcs, dans les vieux monastères, dans les cimetières. C'est un peu l'arbre de la mort, mais en même temps, il est aussi l'arbre de la vie. Parce que, bon, pour les côtés historiques, la guerre, l'Angleterre, au niveau de toutes ces guerres, a gagné ces guerres grâce à l'if, parce qu'au niveau des archers, les arcs étaient faits en if, les flèches étaient faites aussi en if. Il faut voir que l'if, il a une l'élasticité, il a une fibre qui pousse pas forcément en fil total, ça pousse en ressort. Donc quand on faisait une flèche avec un if et puis en plus une bout de branche directement coupée, il y avait encore le tanin. Donc on sait très bien que l'if, c'est une taxus baccata, taxus qui veut dire toxique et en même temps qui colle la gangrène. Donc quand on était piqué par une flèche de l'armée anglaise, on pouvait être presque sûr de décéder au moins 15 jours après, et ainsi de suite. Et aussi, les rois, on l'ont utilisé. utilisés pour faire des sortes de plats et aussi de cuillères pour inviter leurs ennemis, entre guillemets, leur faire manger dans l'eau d'if et ils décédaient progressivement. C'était un poison. Bon, maintenant, l'Angleterre a fait beaucoup de travail là-dessus avec la décoction d'écorce, de baies et puis d'autres matières grâce à l'étude de l'IF, et en ont fait aussi des médicaments contre certains cancers. Donc c'est vraiment l'arbre de la vie et de la mort.
L'IF, oui, un arbre remarquable quand même, parce qu'il a une grande longévité, d'où sa place dans les cimetières, en plus des qualités techniques dont vous nous parlez. Ça veut dire que le choix du matériau est essentiel, comme vous nous l'avez montré. Et puis maintenant, il y a la sculpture, le tiki. Qu'est-ce que c'est le tiki ?
Le tiki, donc pour nous Européens, on va tout de suite partir sur le totem. Parce que nous Européens, on a des connaissances sur la culture, on va dire, africaine avec les sculptures. On a connaissance aussi de l'Amérindien avec les totems. Donc chaque personne qui a ces connaissances-là, qui ne connaît pas la Polynésie française, quand il va voir un tiki, il va se dire « Ah bah tiens, c'est un totem ». Non, le tiki, c'est vraiment propre déjà au monde du Pacifique, parce qu'on va retrouver des tikis aussi bien de Hawaï, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, et en plein milieu, ça s'appelle le triangle, en fin de compte, polynésien, Maori. En plein milieu de ce triangle-là, on va retrouver l'île de Pâques. Donc, ils ont placé aussi l'île de Pâques dans ce triangle Maori. En Polynésie française, c'est Maui. On enlève le R, on met un H. C'est beaucoup plus doux, mais c'est carrément la même culture. Entre guillemets, grande culture. Parce que pour la Polynésie française, et là, on va parler que du tiki polynésien et marquisien, le tiki, c'est un demi-dieu. C'est un demi-homme, c'est vraiment à l'effigie du premier homme sur la Terre. C'est le côté anthropomorphe. C'est une antenne entre le monde tellurique et le monde cosmique. Il rassemble toutes les vertus. Alors qu'on va prendre un autre peuple, admettons les Hawaï ou même Nouvelle-Calédonie, en Micronésie, ainsi de suite, on va trouver des tikis, mais ils vont tous avoir une forme à peu près différente pour un but différent, comme admettons le tiki de la guerre, le tiki de la femme, ça chez les Hawaïens c'est très très présent, le tiki aussi de la protection, et ainsi de suite. Tandis que le tiki polynésien, lui, va renfermer toutes les vertus de la vie. Et en même temps, le tiki polynésien a fait naître aussi les motifs de tatouage. Ce que l'on voit sur la peau, la plupart des... là, c'est vraiment un effet de mode, hein, parce qu'on va le trouver aussi bien sur nos sportifs, que ce soit les footballeurs ou les rugbyman, et même aussi d'autres maintenant super sportifs, ont tous un motif ou un gros tatouage. C'est un effet de mode, ça certes, mais ces motifs-là, ce sont que les fragments d'un tiki. Comme si le tiki avait été éclaté en millions de petits motifs fragmentés, et on appelle ça, quand on se fait tatouer, frapper les tikis sur la peau. Ça, c'est le côté marquisien ou même polynésien. Quand on se fait tatouer, on ne se fait pas dessiner un motif. Non, on se fait frapper un motif qui descend du tiki, donc qui a une force. Donc chaque symbole a naturellement en grand en tête le mot tiki, mais une force rajoutée dessus. Comme admettons, si on prend le symbole de la tortue, donc tout le monde va croire que c'est le dessin d'une tortue, mais non, c'est un symbole, il y a un symbole bien défini pour la tortue qui aura certaines dérives en fonction aussi de la force à vouloir synthétiser dans le motif. Donc on prend l'exemple de la tortue, ce motif là il a le grand symbolisme du voyage, parce qu'une tortue ça voyage, de la connaissance, parce que là, plus on voyage, plus on connaît, de la longévité, donc plus on vieillit, plus on a aussi de connaissances. La forme de la carapace fait aussi la protection. La protection de la famille, la protection de l'habitat, mais aussi fait naître l'habitat. En même temps aussi, on sait bien que pour certaines fêtes, certains mariages, certaines cérémonies, la tortue était mangée. Donc c'était aussi une référence de mets des rois. Ça c'est juste pour une petite entête, c'était juste une parenthèse pour dire qu'un symbole a forcément une légende, une énergie, une force.
Voilà. Chers amis auditeurs, alors on a eu l'explication très précise de Gaëtan concernant le tiki. On retiendra tout ce que vous avez dit, bien sûr, mais si on n'a qu'un élément à retenir, c'est le tiki, demi-dieu, demi-homme, ce qui veut déjà dire beaucoup, beaucoup de choses. Et avec ça, vous avez les explications de Gaëtan.
Oui, et savoir vraiment quand on place demi-homme, demi-dieu, il faut vraiment se dire que c'est la force de la protection. Protection aussi bien de l'homme, de l'habitat, et aussi de la nature. Là, aussi bien de l'océan, de la terre, de tout. Un peu la mère patrie.
Voilà. La mère patrie. Vraiment protecteur. Et là, vous êtes auprès de Nantes, vous avez votre atelier. Comment se déroule votre journée de travail? Parce que on doit insister vraiment sur le fait que vous travaillez beaucoup, Gaëtan.
Ah oui, oui. On peut faire un petit historique, un petit retour. Donc je suis rentré pour la deuxième fois de Polynésie. J'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de sculptures. Et ma maman, qui a découvert qu'il y avait une exposition, une fête polynésienne, parce que c'est ça aussi. Moi, je suis fait, d'accord, mais en Bretagne, il y a énormément de Polynésiens et aussi de militaires qui sont allés, et aussi de Bretons, de navigateurs qui sont allés en Polynésie. C'est comme si, en fin de compte, il y avait une sorte de cordon entre la Polynésie et la Bretagne. Donc, je me suis, j'ai été confronté à faire beaucoup, 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 beaucoup de pièces, comme si j'avais été un peu hanté par le tiki à mon retour. Et donc, il fallait absolument trouver de la place déjà chez moi, et aussi faire voir aussi toutes mes créations. Et là, ma maman a trouvé un endroit qui s'appelait Kevin, qui s'appelle encore Kevin. Hein. C'est une fête polynésienne qui rassemble presque pas tous les Polynésiens de France à chaque année, mais quand même, c'est vraiment un gros carrefour. Et c'est ce qui a donné aussi l'effervescence à presque tous les événements polynésiens en France et même en Europe. Donc, qui s'appelle aussi... Kevin, c'est une fête, mais c'est une fête générée par Bresse Polynésia, qui est une association qui est depuis plus de 30 ans et qui est née avec les gens passionnés de la Polynésie, les danses. Donc, ça a commencé par faire des spectacles, des expositions, aussi avec des exposants via l'événement de Bresse Polynésia, qui était quand même un grand événement, un grand rassemblement. Donc, moi, j'avais une sorte de place pour pouvoir faire montrer mon travail au niveau de la sculpture et de mes tiki. Donc la première fois que je suis allé, j'étais très très bien reçu. Et maintenant, ça fait plus de 18 ans que j'y vais. Et c'est là où tout a démarré, où j'ai pu voir que les gens aimaient déjà les tiki, aimaient aussi mon travail. Et c'est ce qui m'a lancé. Bon après, j'ai fait plus de 17 ans maintenant, j'ai fait 25 ans de sculpture, mais j'ai fait plus de 17 ans autour de la France et même aussi en Europe pour faire montrer mes tiki. Et c'est surtout que Kevin, Bresse Polynésia, a fait grandir le monde polynésien. Gérard Dehaye, qui est le président de l'association Bresse Polynésia, s'est dit, oh là là, il y a quelque chose. En plus, il travaillait à faire des sites. Donc, quand il est allé en retraite, il a carrément monté le site Bresse Polynésia, qui a fait un buzz parce que on pouvait retrouver tout ce qui allait se passer en Polynésie. Mais le week-end, là, c'était vraiment quelque chose qui allait être vraiment interactif. Si on voulait sortir le week-end et se dire, tiens, je vais trouver une fête polynésienne, on avait juste à aller sur le site Bresse Polynésia. Et aussi, si on voulait découvrir un artiste, hein, que ce soit danseur, chanteur, sculpteur, confectionneur, créateur de n'importe quelle chose, et puis ainsi de suite, j'en passe et on passe.
Pour Kevin, je reviens un peu pour dire simplement que finalement, il a fallu un événement, il faut bien sûr du talent, il faut aussi des relations pour pouvoir commencer quelque chose. Et permettez-moi de saluer votre maman, qui est aussi, je crois, écrivaine.
Oui, c'est ça, elle est écrivaine. Oui. Et puis maintenant, elle est un peu... dans le mouvement aussi breton.
Oui, oui. Et alors, vous participez à de grands événements?
Oui, oui, oui. Je participe à pas mal d'événements dans l'année. Bon, maintenant, c'est différent parce qu'avec tout ce qui a pu se passer ces deux dernières années, c'est complètement différent. Mais je vais revenir un peu sur l'histoire de Kevin parce que ou de Bresse Polynésia, parce que ce site-là était tellement grand et qu'il y avait tellement de gens qu'il s'est vraiment élargi et agrandi énormément. Ça a fait naître Tahiti en France. Et donc une personne qui monte un événement, vu qu'on est recensé sur le site Tahiti en France, pouvait nous trouver. Et ça a fait naître, c'est ça, des personnes qui étaient porteurs de projets, que ce soit dans les grandes fêtes polynésiennes, que ce soit dans les courses de pirogues, parce que là, ne serait-ce qu'au Sable d'Olonne, il y a eu une grosse... je pense que les sables, on se sont dit, on va essayer d'être la plus grande course de pirogues de France. Ce qu'ils ont essayé de faire, et ce qui, je pense, ça prend pas forcément la place de la première, mais ils sont quand même avec, je crois, c'est la Porquerolles, je pense qu'ils se taillent la bourre. Et donc, lors de ces fêtes, les Sables d'Olonne m'ont contacté pour que je puisse m'ont proposé, on a vu ça ensemble, pour faire un grand tiki. Et ce grand tiki, je l'ai réalisé lors d'une compétition, mais c'est surtout que, juste avant, l'année d'avant, il y a une personne qui s'appelle Mickaël Ménez, qui était porteur de projet sur Tonnerre de Brest. Donc je pense que vous connaissez Tonnerre de Brest, c'est les fêtes maritimes de Brest.
Une grande fête d'ailleurs, hein. Très grande fête.
Ah oui, une grande fête, parce que celle que nous avons faite en 2016, ça a amené plus de, je crois, 700 000 personnes ou 800 000 personnes. Et rien que sur le quai qui était réservé pour le thème de la Polynésie, nous avons eu en 6 jours plus de 92 000 personnes à passer. Donc c'était vraiment... donc Mickaël Ménez est venu me rencontrer un jour à Quévin, un week-end là, voilà. Et il me propose de faire partie du bateau qui va partir là sur le quai je me rappelle plus le nom du quai, mais l'un des quais de l'événement Tonnerre de Brest pour 2016. Et moi je lui dis pourquoi pas. Et là il me propose aussi de me mettre en relation avec le conservatoire botanique de Brest, parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de 3 eucalyptus qui ont dû être coupés. Là-dessus, j'ai dit, bon, bing, ok, je vais rencontrer les personnes du conservatoire et surtout rencontrer l'eucalyptus et savoir si on peut monter un projet ensemble. Parce que dans l'idée, c'était de monter comme projet un grand tiki, de sculpter un grand tiki qui allait se finir sur les quais de Brest, et ensuite allait être implanté dans le Stangalard, dans le conservatoire botanique, dans la vallée. Et chose qui a été faite. Donc je suis monté, j'ai pu tester la chair de l'eucalyptus et j'ai dit c'est parti. Donc à plusieurs reprises, à 5 reprises, je suis monté pour commencer le tiki qui fait 3,50 m sur 80 à peu près, 90 à la base, qui a fini à peu près à 70-60. Et donc tout ça s'est bien déroulé et j'ai pu aussi rencontrer toute une famille de passionnés dans cette culture-là, et surtout en montant ce projet-là, on a pu voir le nombre d'associations, parce que le but aussi de cet événement-là, c'était de faire vivre toutes les associations polynésiennes de Bretagne, en gros. Bon, il y en a eu certaines d'autres aussi qui sont venues de d'autres régions, mais c'était surtout pour Mickaël Ménez de faire vivre, en fin de compte, la Polynésie, mais de Bretagne. De faire voir aux Polynésiens qu'il y avait aussi la Polynésie, mais en Bretagne. Et là, tout le monde a mis, on va dire, la main à la pâte, et ça a pu créer un grand événement. Donc à la suite de ça, vu que j'avais fait ce grand tiki qui a été super bien accueilli, qui est devenu un peu une mascotte de la vallée, avec aussi la cabane Kanak aussi, qui a été faite, donc ça a été, ces deux entités ont été un peu des mascottes pour le Stangalard et le monde polynésien aussi en Bretagne, qui rassemblait la Polynésie française, mais qui rassemblait aussi la Nouvelle-Calédonie. Donc on a pu voir que le monde micronésien était implanté en Bretagne et même en France. Donc à la suite de ça, il y a eu ce contact de la Vendée-Vara, donc qui est l'événement des Sables d'Olonne, de la compétition de pirogue, hein. La vase et la pirogue polynésienne. Donc c'est une compétition de 6 partants, de 6 concurrents, parce qu'en va, il y a vraiment en unité, donc une seule personne, 3 personnes ou 6 personnes. Et là, les compétitions qui se font à l'heure actuelle en France, c'est des compétitions où on est soit 1 ou 6. Il y a aussi à 2, mais c'est très très rare. Et donc le championnat de France se consacre beaucoup sur la V6. On appelle ça la V6. Et donc j'ai réalisé au Sable d'Olonne un premier tiki. Et l'année d'après, on m'a donné une bille de 4,50 m. Et en 4 jours, j'ai réalisé 2 tikis. 4,50 m sur 1 m de diamètre, ça a été... Voilà, c'était un challenge pour moi de réaliser ces 2 tikis. J'allais pas faire un tiki de 4,50 m parce qu'après, on avait pu pouvoir le lever et ainsi de suite.
Il faut imaginer.
C'était un challenge pour moi.
Il faut imaginer 4,50 m sur 1 mètre de diamètre. Une bille, c'est au sens de bille de bois et c'est énorme.
Oui.
Alors, nous approchons, j'allais dire malheureusement, mais c'est ainsi la radio, du terme de l'émission. Alors, vous nous avez fait partager vraiment, vraiment la Polynésie, votre art de sculpture. Et puis, si vous avez un petit mot à ajouter pour conclure.
Pour conclure, je vais juste dire aux gens que il y a la sculpture polynésienne, d'accord, mais moi j'ai aussi le support du bois, donc je suis tombé aussi amoureux du bois et je fais une petite collection. Et vous me parliez de bois, qu'est-ce que je travaillais. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai travaillé entre 350 bois à 400 bois différents. Comme je vous ai dit, je suis devenu collectionneur et aussi passionné, et je suis un peu un chasseur de bois. Faut voir que 350-400 bois, c'est très très peu, parce qu'on sur la planète, on a plus de 72 000 essences.
Ouais.
Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la sculpture, pour moi, est devenue une nécessité, mais c'est aussi une nécessité de vie, parce qu'elle va rassembler les rencontres, elle va rassembler les matières, elle va rassembler les connaissances, elle va rassembler l'histoire, la créativité, l'imaginaire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la sculpture, tout le monde en a besoin, c'est une sorte de thérapie, c'est une sorte de liberté, de libérer nos fibres, on va dire, intestinales, intellectuelles, culturelles, émotionnelles. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait bien que tout le monde prenne un peu conscience que dans la vie, on a besoin d'art, on a besoin de se libérer par la créativité et on a besoin de partager. Je pense c'est ça.
Vous avez entièrement raison et je pense que tous nos auditeurs, nos nombreux auditeurs, sauront en tenir compte. Où peut-on vous joindre, Gaëtan ? Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone ?
On peut me joindre sur un numéro de téléphone, ça c'est sûr. On peut me trouver aussi sur Tahiti en France. Gérard DF se fera un plaisir de faire le lien. On peut me trouver juste avec mon nom, Pichot Gaëtan, sur Internet. On peut me trouver sur Instagram, sur Facebook. J'ai pas encore de site.
Mais
ça va tarder.
Votre numéro de téléphone, si vous voulez bien le donner.
Je peux le donner. Donc pour me contacter, c'est le 06 23 58 39 18.
En tout cas, je vous remercie et c'est une très belle émission. Merci beaucoup et de tout ce qu'on a pu apprendre au niveau de la sculpture. Je rappelle que c'était Gaëtan Pichot, l'un des rares sculpteurs professionnels en France et qui exerce depuis très longtemps. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Gaëtan Pichot.
Je vous remercie.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.